Thomas Hardy, Le veto du fils. Extrait des petites ironies de la vie. Vu de dos, cette chevelure châtain semblait un prodige et un mystère. Sous le castor noir, surmonté d'une aigrette de plumes sombres, les longs cheveux tressés et enroulés en torsade, comme un travail de vannerie, formaient un échantillon rare, mais quelque peu barbare, d'adresse et d'ingéniosité. On aurait à la rigueur compris que ces nattes et ces rouleaux étaient faits pour durer une année, ou seulement un mois du calendrier. Mais qu'on puisse entièrement démolir chaque soir en allant se coucher ce qui n'avait duré qu'un seul jour semblait un gaspillage inconsidéré de temps et d'habileté. Et elle s'était coiffée absolument seule, la pauvre. Elle n'avait pas de femme de chambre, et comme c'était à peu près le seul talent dont elle puisse s'enorgueillir, elle y consacrait des soins infinis. C'était une jeune femme infirme, mais dont l'aspect n'avait rien de maladif. Elle était assise dans un fauteuil roulant, placé devant une palissade verte, tout près d'un kiosque à musique où se donnait un concert par une chaude après-midi de juin. Cela se passait dans un de ces petits jardins publics ou privés comme on en trouve dans les faubourgs de Londres. Une société locale tâchait de récolter quelque argent pour une bonne œuvre. La grande cité est faite d'une infinité de petits mondes. En dehors du quartier, on ignorait tout de l'œuvre et de l'orchestre et du jardin. Mais le kiosque était entouré d'une foule attentive pour laquelle ils avaient un sens véritable. Pendant que se succédaient les airs de musique, nombre d'auditeurs observaient la dame au fauteuil roulant et à la chevelure sombre, qui, à cause de la place qu'elle occupait, attirait l'attention. Il n'était pas facile de distinguer son visage. Mais les savantes torsades en question, une oreille et une nuque blanche, la courbe d'une joue pleine et ferme, autant d'indices permettant de croire qu'il était joli. Il n'est pas rare que l'on soit trompé dans son attente en pareil cas. Dès que l'on est fixé, en l'occurrence, lorsque la dame tournant la tête se montra enfin, elle n'était pas aussi belle que les gens derrière elle l'avaient supposé, et même espéré, sans trop savoir pourquoi. Et tout d'abord, hélas, il en est souvent ainsi, elle était moins jeune qu'on avait pu le croire. Cependant, elle avait sans conteste une figure attrayante et que la maladie n'avait en rien marqué. Ces petits détails se précisaient chaque fois qu'elle se retournait pour parler à un jeune garçon de 12 à 13 ans qui se tenait près d'elle et qui portait le costume des élèves d'un collège connu. Leurs voisins les plus proches purent entendre qu'ils l'appelaient « maman ». Quand le concert eut pris fin et que la foule se retira, plusieurs personnes s'arrangèrent en sortant pour passer tout près d'eux. Presque toutes se retournèrent afin de mieux voir la jeune femme si intéressante, qui attendait dans son fauteuil que le chemin soit libre pour qu'on puisse la rouler dehors sans encombre. Comme si elle avait prévu tous ces regards et voulait bien satisfaire leur curiosité, elle leva les yeux vers ceux qui l'observaient. De beaux yeux bruns, doux et tendres, à l'expression légèrement mélancolique. Conduite hors du jardin, puis longeant le trottoir, elle disparut avec le collégien qui marchait près d'elle. Aux questions posées par quelques personnes qui la regardaient s'éloigner, on répondit qu'elle était la deuxième femme du vicaire d'une paroisse voisine et qu'elle était boiteuse. On pensait qu'elle avait eu une aventure honnête, mais à coup sûr, une aventure. Comme ils s'en retournaient en causant entre eux, l'enfant qui l'accompagnait exprima le souhait que son père n'ait pas eu besoin de leur aide pendant leur absence. Il allait si bien quand nous avons parti qu'il n'aura pas eu besoin de nous, répliqua-t-elle. « Sommes partis, maman, pas avant !» s'écria le collégien avec une impatience dédaigneuse et presque dure. « Tu le sais bien, voyons !» Sa mère se hâta d'adopter la correction sans avoir l'air de s'en vexer. Et elle ne répliqua pas, comme elle l'aurait fort bien pu, en le priant d'essuyer sa bouche pleine de miettes, qu'il avait salie en essayant de manger un gâteau en cachette sans le sortir de la poche où il était fourré. Après quoi, la jolie dame et le collégien continuèrent leur chemin en silence. Cette question de grammaire, qui avait quelque rapport avec son histoire, plongea la jeune femme dans une rêverie plutôt attristée selon toute apparence. Elle se demandait sans doute si elle avait agi sagement en réglant sa vie comme elle l'avait fait, pour en arriver à un pareil résultat. Dans un coin reculé, non loin de la petite ville d'Albricam, il y avait un joli village avec son clocher et son presbytère qu'elle connaissait bien, mais que son fils n'avait jamais vu. C'était son village natal, Gemid, l'endroit où s'était passé le premier événement ayant trait à sa situation présente alors qu'elle n'était qu'une jeune fille de 19 ans. Comme elle se souvenait bien du premier acte de sa petite tragicomédie, la mort de la première femme de son mari, le pasteur. C'était arrivé un soir de printemps et elle, qui maintenant et depuis des années avait pris la place de cette première épouse, était alors femme de chambre au presbytère. Lorsque tout fut fini, elle sortit, au crépuscule, pour aller voir ses parents qui habitaient le village et leur annoncer la triste nouvelle. Alors qu'elle ouvrait la barrière blanche et regardait les arbres qui s'élevaient à l'ouest, comme un écran sur le ciel, voilant la pâle lumière du soir, elle ne fut pas trop étonnée d'apercevoir un homme debout contre la haie. Cependant, espiègle, elle s'écria pour la forme. « Oh Sam, que vous m'avez fait peur !» C'était un jeune jardinier de sa connaissance. Elle lui raconta ce qui venait d'arriver. Et les deux jeunes gens restèrent silencieux, en proie à cet état d'âme plein d'une calme philosophie, où nous nous trouvons lorsqu'un événement tragique s'est déroulé tout près de nous, sans nous toucher directement. Pourtant, celui-là devait influer sur leur relation. « Et allez-vous rester au presbytère à présent ?» demanda-t-il. Elle y avait à peine songé. « Oh, je crois que oui, » dit-elle. « Je suppose que tout continuera comme d'habitude. » Il l'accompagna un moment, et bientôt lui prit la taille. Elle le repoussa doucement, mais il recommença, et elle le laissa faire. « Voyez-vous, ma chère Sophie, vous ne savez pas si vous resterez, peut-être aurez-vous besoin d'un foyer. Je suis prêt à vous l'offrir un jour, si pour l'instant je ne le puis pas. « Oh, comme vous y allez, Sam, je ne vous ai même pas dit que vous me plaisiez. C'est vous qui courez après moi. » « Bien sûr. Et pourquoi n'en aurais-je pas le droit, tout comme les autres ?» Il se pencha pour l'embrasser, car ils étaient arrivés à la porte de la maison où demeurait sa mère. « Non, Sam, je ne veux pas !» s'écria-t-elle, lui mettant la main sur la bouche. « Vous devriez être plus sérieux un soir comme celui-ci. » Et elle lui dit au revoir sans le laisser prendre un baiser ni entrer. Le pasteur, resté veuf, était alors un homme dans la quarantaine, de bonne famille et sans enfants. Il avait mené une existence retirée dans ce presbytère, en partie parce qu'il n'y avait pas de châtelain et la perte de sa femme ne fit que fortifier son habitude de vivre en solitaire. Il se montra encore moins qu'auparavant. Il vécut encore plus à l'écart de ses courants de vie avec leur rythme et leur chaos, que le monde extérieur appelle le progrès. Pendant bien des mois après la mort de sa femme, son train de maison demeura tel qu'il avait été. La cuisinière, la femme de chambre, la servante et le concierge s'acquittèrent de leurs devoirs ou les négligèrent selon l'inspiration de leur tempérament, à l'insu du pasteur. On lui fit alors remarquer que ses domestiques paraissaient n'avoir rien à faire puisqu'il était tout seul. La vérité de cette observation lui y apparut, et il décida de réduire ses frais. Mais il fut devancé par Sophie, la servante. Un soir, elle lui annonça qu'elle désirait partir. Et pourquoi ? Dit le pasteur. Sam Hobson m'a demandé en mariage, monsieur.
Ah, et vous désirez vous marier ?
Pas trop, mais enfin c'est un parti pour moi. On sait bien qu'il faudra que l'une de nous quitte la maison.
Un jour ou deux après, elle lui dit.
J'aimerais autant ne pas m'en aller tout de suite, si c'est possible, monsieur. Sam et moi, on s'est disputés.
Il leva les yeux sur elle. Il l'avait à peine remarquée jusqu'alors, quoique bien souvent il eût senti sa douce présence autour de lui.
Quelle petite créature tendre, souple et féline. C'était la seule de ses domestiques avec qui il fut en rapport direct et constant.
Que deviendrait-il si Sophie s'en allait ?
Sophie ne s'en alla pas, ce fut une autre, et les choses reprirent leur cours tranquille.
Quand M. Twycott tomba malade, Sophie lui monta ses repas. Mais un jour, elle n'avait pas plutôt quitté la chambre qu'il entendit un bruit dans l'escalier. Elle avait glissé, son plateau à la main, et s'était si bien foulé le pied qu'elle ne pouvait plus se relever. On alla chercher le chirurgien du pays, le pasteur guérit, mais Sophie fut immobilisée pendant de longs jours. Et on lui fit savoir qu'elle ne pourrait plus jamais marcher comme avant, ni s'acquitter d'un emploi qui l'oblige à rester longtemps debout. Aussitôt qu'elle fut à peu près remise, elle demanda à parler au pasteur. Du moment qu'il lui était interdit d'aller et venir, et d'ailleurs elle sentait bien qu'elle ne pouvait plus, son devoir était de partir, elle pourrait toujours travailler assise, et sa tante était couturière. Le pasteur avait été très touché de tout ce qu'elle avait souffert à cause de lui, et il s'écria « Non, Sophie, estropiée ou non, je ne veux pas vous laisser partir, vous ne me quitterez plus. » Il s'approcha d'elle, et bien qu'elle n'ait jamais pu dire au juste comment cela s'était fait, elle sentit tout à coup ses lèvres sur sa joue. Il lui demanda alors de devenir sa femme. Ce n'était pas précisément de l'amour que Sophie éprouvait pour lui, mais un respect qui allait presque jusqu'à la vénération. Même si elle avait vraiment désiré s'éloigner de lui, elle n'aurait pas osé refuser un personnage si éminent et si auguste à ses yeux. Et elle consentit, séance tenante, à l'épouser. Et voilà comment il advint qu'un beau matin, alors que l'église prenait l'air par toutes ses portes ouvertes et que les oiseaux voletaient et se posaient sur les entrées du toit, on célébra à la sainte table un mariage dont pas une âme ou presque n'eut connaissance. Le pasteur et un vicaire du voisinage étaient entrés par une porte et par une autre, Sophie, suivie des deux témoins indispensables. Un moment après, ils en ressortirent nouveau mariés. Monsieur Twycott savait fort bien que cet acte était pour lui un suicide social, quoique la réputation de Sophie fût sans tache, et il avait pris ses mesures en conséquence. Il s'était arrangé pour changer de poste avec un collègue qui était vicaire dans la banlieue sud de Londres. Aussitôt qu'ils le purent, les nouveaux époux s'y rendirent, abandonnant leur jolie maison de campagne avec ses arbres, ses arbustes et sa terre pour une maison mesquine et grise dans une rue longue et étroite, et leur beau carillon pour le plus odieux vacarme d'un battant de cloche qui ait jamais torturé oreille de mortel. Et tout cela à cause d'elle. Là, du moins, ils étaient loin de tous ceux qui l'avaient connu dans son ancienne position, et moins exposés aussi à la curiosité qu'ils auraient dû subir dans une paroisse de province. Sophie, en tant que femme, était la compagne la plus charmante qu'un homme puisse rêver. Mais sur le chapitre de la distinction, elle avait ses défauts. Elle montra des dispositions naturelles pour les petits raffinements domestiques, tant qu'il ne fut question que des choses et des matières, mais en fait de culture, ses facultés étaient médiocres. Il y avait plus de 14 ans qu'elle était mariée et son époux s'était donné beaucoup de peine pour faire son éducation. Pourtant, elle n'avait encore que des notions confuses sur l'emploi de l'indicatif et du subjonctif, ce qui ne la rehaussait guère dans l'estime de ses rares relations. Son grand chagrin était que son fils unique, pour l'instruction duquel nulle dépense n'était épargnée, fut maintenant assez grand pour s'apercevoir de ses fautes chez sa mère, et non seulement s'en apercevoir, mais encore s'en irriter. Ainsi, Elle vécut dans la grande ville, passant des heures à tresser ses beaux cheveux. Son teint à l'éclat de pomme d'api s'était fané jusqu'à devenir d'un rose presque sans vie. Elle ne s'était jamais remise de sa blessure et avait dû renoncer presque complètement à marcher. Son mari en était venu à aimer Londres pour la liberté et l'indépendance qu'on y goûte. Mais il avait 20 ans de plus qu'elle et souffrait depuis peu d'une maladie grave. Ce jour-là, cependant, il avait paru assez bien pour qu'elle puisse le laisser seul et accompagner son fils Randolph au concert. Lorsque nous avons d'elle une nouvelle vision, elle porte le costume de deuil des veuves. Monsieur Twycott ne s'était pas guéri et reposait aujourd'hui dans un cimetière au sud de la grande cité où s'entassent les tombes et dont tous les morts auraient pu sortir de leur fosse sans qu'aucun d'entre eux le reconnût, ni lui, ni même son nom. Le jeune homme, après avoir rempli ses devoirs en l'accompagnant jusqu'à sa dernière demeure, était retourné au collège. Au milieu de tous ces changements, Sophie avait été traitée comme une enfant qu'elle était restée malgré son âge. On ne lui laissait rien gérer de ce qui avait appartenu à son mari, en dehors d'un modeste revenu. Craignant qu'elle ne soit victime de son inexpérience, il avait confié tout ce qu'il avait pu à des tuteurs. Le jeune homme devait terminer ses études au collège, puis, en temps voulu, aller à Oxford et entrer dans les ordres. Tout avait été prévu et arrangé. Il ne restait plus à Sophie d'autres soucis au monde que manger, boire, s'occuper à ne rien faire et continuer à enrouler et entortiller ses cheveux châtains en ne conservant un certain train de maison que pour son fils lorsqu'il venait chez elle en vacances. Prévoyant qu'il mourrait longtemps avant elle, son mari lui avait, de son vivant, acheté dans cette même rue longue et étroite où donnaient l'église et le presbytère, une maison à demi isolée qui serait la sienne aussi longtemps qu'elle voudrait bien l'habiter. C'est là qu'elle vivait à présent, ayant pour tout horizon le semblant de pelouse devant la porte et, à travers la grille, l'éternel flot mouvant de la rue. Où, lorsqu'elle se penchait à la fenêtre du premier étage, aussi loin que la vue pouvait s'étendre, la perspective des arbres enfumés dans une atmosphère brumeuse et des ternes façades, le long desquelles résonnaient les bruits habituels d'une grande rue de faubourg. Cependant, son fils, avec son instruction aristocratique, sa grammaire et ses aversions, perdait peu à peu cette enfantine faculté d'émerveillement qu'il avait eue, comme d'autres enfants, dès la naissance, pour toute chose, jusqu'au soleil et à la lune, et que sa mère, elle-même une enfant de la nature, avait tant aimé en lui. Le cercle de ses intérêts se réduisait maintenant à une population de quelques milliers de gens riches et titrés, s'impliquant entre lui-même et les millions d'autres qui ne l'intéressaient pas le moins du monde. Il s'éloignait de plus en plus de sa mère. Le milieu où vivait Sophie était un faubourg de petits commerçants et employés, et son unique compagnie, ou presque, se composait de ses deux domestiques. Rien d'étonnant à ce qu'après la mort de son mari, elle perdit vite les raffinements artificiels qu'il lui avait inculqués et devint aux yeux de son fils une mère dont les maladresses et l'origine ne pouvaient que le faire souffrir et rougir, lui qui se croyait un monsieur. Il était encore loin d'être assez homme, si tant est qu'il dût jamais le devenir, pour discerner combien ces peccadilles de sa mère étaient infimes, en vérité, à côté des élans de tendresse prêts à sourdre dans son cœur, et qu'elle gardait enfermés jusqu'au moment où son fils, ou quelqu'un, voire quelque chose d'autre, l'accepterait telle qu'elle était. S'il avait vécu à la maison avec elle, elle lui aurait dispensé cette tendresse tout entière, mais pour l'instant, il paraissait en requérir bien peu, et elle la garda en réserve. Sa vie devint affreusement triste. Elle ne pouvait plus marcher et n'aimait ni les promenades en voiture, ni les voyages d'aucune sorte. Près de 2 ans s'écoulèrent sans un événement où elle n'avait toujours à contempler que cette rue de faubourg en songeant au village où elle était née et où elle serait retournée, oh, avec tant de joie, même pour y travailler dans les champs. Ne prenant pas d'exercice, il lui arrivait souvent de ne pouvoir dormir. Alors, elle se levait dans la nuit ou au petit jour et explorait du regard la rue, déserte à cette heure, où les réverbères étaient postés comme des sentinelles attendant le passage d'un cortège. Et l'on aurait bien dit une sorte de cortège, lorsque tous les matins, vers 1 heure, les voitures de la campagne défilaient, chargées de légumes pour les halles. Elle les vit souvent s'avancer lentement à cette heure silencieuse et grise, une charrette après l'autre, portant des bastions verdoyants de choux entassés, penchant jusqu'à tomber, mais ne tombant jamais, murs de paniers pleins de haricots et de pois, pyramides de navets blancs comme neige, instables tours penchées de légumes d'hiver, s'avancer lentement, traînées par de vieux chevaux de nuit, qui semblaient toujours se demander patiemment, entre leurs quintes de toux, pourquoi il leur fallait sans cesse travailler à cette heure endormie, où toutes les autres créatures sensibles avaient le privilège de se reposer. Enveloppées d'un manteau, elles trouvaient un apaisement à les observer, en sympathisant avec eux lorsqu'elles étaient si déprimées et si nerveuses que le sommeil la fuyait. À voir comme toute cette fraîche verdure s'éclairait d'un rayon de vie en passant sous le réverbère, et comme ces animaux en sueur fumaient et luisaient après leur interminable voyage. Ils étaient pleins d'intérêt, et même de charme pour Sophie. Ces gens et ces véhicules, à demi ruraux, évoluant dans une atmosphère urbaine et qui menaient une existence si différente de celle des gens qui trimaient le jour dans cette même rue. Un matin, un homme qui conduisait un chargement de pommes de terre regarda avec insistance les maisons, tandis qu'il passait. Et avec une émotion étrange, elle se dit que cette silhouette lui était familière. Elle chercha à le revoir. Son véhicule antique, une charrette peinte en jaune, était facile à reconnaître. Et, 3 nuits après, elle l'aperçut de nouveau. L'homme était bien, comme elle l'avait supposé, Sam Hobson, l'ancien jardinier de Gaymide qui avait jadis voulu l'épouser. Il lui est arrivé de songer à lui, en se demandant si l'existence qu'elle eût connue avec lui dans une chaumière ne lui aurait pas réservé un sort plus heureux que la vie qu'elle avait acceptée. Elle n'avait pas pensé à lui avec passion, mais dans la lugubre situation qui était à présent la sienne, elle éprouvait une émotion à le revoir. Une émotion tendre que l'on ne saurait exagérer. Elle alla se recoucher et se mit à songer. À quel moment ces maraîchers des Halles, qui venaient en ville si régulièrement à 1 ou 2 heures du matin, s'en retournaient-ils ? Elle se souvint vaguement d'avoir vu leur charrette vide, perdue dans le mouvement habituel du jour, repassée dans la matinée. On n'était qu'en avril, mais ce matin-là, après le petit déjeuner, elle s'installa à la fenêtre qu'elle avait fait ouvrir et resta là pour regarder au dehors, assise, en plein soleil, éclairée par ses rayons encore faibles. Elle faisait semblant de coudre, mais ses yeux ne quittaient point la rue. Entre 10 et 11 heures, la charrette attendue, à présent déchargée, repassa, s'en retournant. Mais Sam ne regardait pas autour de lui cette fois et conduisait absorbé par ses pensées. « Sam ! » cria-t-elle. Sursautant, l'homme se retourna et son visage s'éclaira. Il appela un petit garçon pour tenir son cheval, mit pied à terre et vint se poser sous la fenêtre. « Je ne peux pas facilement descendre, sans cela je viendrai, Sam, » dit-elle. « Vous saviez que je demeurais ici ?»« Oui, oui, madame Twycott. » Je savais que vous demeuriez par ici. J'ai souvent cherché si je ne vous voyais pas. » Il expliqua en quelques mots comment il se trouvait lui-même en cet endroit. Il avait depuis longtemps quitté son métier de jardinier au village près d'Aldbrickham et travaillait maintenant comme contremaître chez un maraîcher de la banlieue de Londres. Cela faisait partie de son travail d'apporter aux Halles des charretées de fruits et légumes 2 ou 3 fois par semaine. Curieuse, elle le questionna. Il convint qu'il avait choisi ce quartier plutôt qu'un autre parce qu'il avait lu dans le journal d'Aldbrickham, 1 ou 2 auparavant, l'annonce de la mort à Londres de l'ancien pasteur de Gaymead. Ce qui avait ravivé son intérêt pour l'endroit qu'elle habitait. Intérêt qui ne s'était pas éteint et qui l'avait conduit à errer dans ces parages jusqu'à ce qu'il eût trouvé son emploi actuel. Ils parlèrent de leur village natal, de ce cher vieux Wessex et des lieux où ils avaient joué ensemble tout enfant. Elle essayait de se persuader qu'elle était maintenant une personne d'importance et ne devait pas en dire trop long à Sam. Mais elle ne put y tenir et les larmes qu'elle refoulait se trahirent dans sa voix. « Vous n'êtes pas heureux, j'en ai peur, Madame Twycott, » dit-il. « Oh non, bien sûr. J'ai perdu mon mari il n'y a pas 2 ans. Je sais, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous aimeriez retourner chez vous ? C'est ici, chez moi, et pour la vie. Cette maison m'appartient, mais je comprends. » Et se laissant aller tout à fait, « Oui, Sam, je brûle de retourner chez moi, chez nous. Je voudrais y aller, ne plus en partir, jamais, et y mourir. » Mais elle se reprit bien vite. « Ce n'est qu'une émotion passagère. J'ai un fils, vous savez, un enfant que j'aime, et il est maintenant en pension. Par ici, tout près, n'est-ce pas ? J'en ai vu des tas le long de cette rue. Oh, non ! Pas dans une de ces méchantes boîtes. Au collège, un des mieux qui soit en Angleterre. » « Que suis-je bête, bien sûr. J'oubliais, madame, que vous êtes depuis longtemps une personne du grand monde. »« Non, je ne suis pas du grand monde, » dit-elle tristement, « et je n'en serai jamais. Mais lui, oui, c'est un monsieur. Et c'est cela qui rend les choses, oh, si dures pour moi. » Les relations, reprises de cette façon bizarre, devinrent rapidement plus étroites. Elle se mettait souvent à la fenêtre pour échanger quelques mots avec lui, le jour ou la nuit. Son chagrin était de ne pouvoir accompagner son vieil ami, son unique ami, à pied, un bout de chemin, pour lui parler plus librement qu'elle ne pouvait le faire lorsqu'il s'arrêtait devant la maison. Une nuit, au début de juin, où elle s'était remise à la fenêtre après être restée quelques jours sans le guetter, il poussa la grille, entra et dit doucement « Dites, un peu d'air ne vous ferait-il pas du bien ? Je n'ai que la moitié de mon chargement ce matin. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi jusqu'au hall ? Il y a une bonne place sur les choux et j'y ai étalé un sac. En prenant un fiacre, vous pourriez y être entré avant que personne ne soit levé. » Tout d'abord, elle refusa, puis, tremblante d'émotion, elle acheva rapidement de s'habiller, s'enveloppa d'un manteau et d'une écharpe et se glissa jusqu'au bas de l'escalier en s'aidant de la rampe, méthode qu'elle adoptait dans les grandes occasions. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva Sam sur le perron. Il la souleva de terre d'un bras robuste et, traversant la petite cour, la porta jusqu'à la voiture. On n'apercevait ni n'entendait âme qui vive sur la longueur infinie de la chaussée droite et unie, avec ses réverbères qui veillaient en permanence et dont les fils se prolongeaient au loin. À cette heure, l'air était frais comme à la campagne et les étoiles brillaient, excepté au nord-ouest où apparaissait la ligne livide de l'aube. Sam l'installa soigneusement et repartit. Ils bavardèrent, comme il bavardait au jour d'autrefois, Sam se reprenant de temps à autre quand il se croyait trop familier. Plusieurs fois, elle se demanda avec inquiétude si elle aurait dû se laisser aller à cette escapade. « Mais je me sens si seule dans ma maison, » ajouta-t-elle, « et cela me fait tant de plaisir. » »« Il faudra revenir, chère Madame Twycott. À aucun moment de la journée, on ne prend si bien l'air. » Il faisait de plus en plus clair. Les moineaux s'affairaient dans les rues et la grande cité se faisait plus dense autour d'eux. Quand ils arrivèrent près du fleuve, le jour se levait et sur le pont, ils purent contempler dans la direction de Saint-Paul le soleil du matin montant dans toute sa splendeur avec, dans les eaux du fleuve, son reflet étincelant et tous les bateaux immobiles. Près de Covent Garden, il la mit dans un fiacre et ils se séparèrent en se regardant bien en face, comme de très vieux amis qu'ils étaient. Elle arriva chez elle sans encombre, gagna la porte en boitillant et l'ouvrit avec sa clé sans que personne l'ait vue. L'air et la présence de Sam l'avaient ranimée, ses joues étaient roses. Elle semblait presque jolie. Elle avait à présent quelque chose dans sa vie, en plus de son fils. Femme au cœur simple, elle savait qu'il n'y avait rien eu de mal dans cette promenade, mais devinait que, d'un point de vue conventionnel, elle avait mal agi. Bientôt, cependant, elle céda à la tentation de recommencer, et cette fois leur conversation fut franchement tendre. Sam lui dit qu'il n'avait jamais pu l'oublier, quoiqu'elle l'ait assez maltraité jadis. Après bien des hésitations, il lui exposa un projet qu'il était en mesure de réaliser et aimerait entreprendre, car le travail à Londres ne lui convenait pas du tout. S'installer à son compte et devenir marchand de légumes à Aldbrickham, le chef-lieu de leur pays natal. Il avait entendu parler d'une bonne occasion, une maison tenue par des gens âgés qui désiraient se retirer. « Et pourquoi ne pas la prendre, Sam ?» demanda-t-elle avec un léger coup au cœur. « Parce que je ne suis pas sûre que... vous voudriez bien me suivre. Je sais que vous ne voudriez pas, ne pourriez pas. Vous qui vivez depuis si longtemps comme une dame, vous ne pourriez pas devenir la femme d'un homme comme moi. » « Ce n'est guère possible, je crois, » reconnut-elle, effrayée à cette seule idée. « Si vous le pouviez, » dit-il avec ardeur, « vous n'auriez qu'à rester assise tranquillement dans l'arrière-boutique à surveiller par la cloison vitrée quand je serai dehors. Simplement jeter un coup d'œil, votre infirmité ne vous gênerait pas, et je vous assure que je ferai tout pour que vous viviez le mieux possible, ma chère Sophie. Si seulement je pouvais y rêver, » ajouta-t-il. « Sam, je vais vous parler franchement, » dit-elle en lui prenant la main. « S'il n'y avait que moi, j'accepterais avec joie. Quoique tout ce que je possède soit perdu pour moi au cas où je me remarie. Ça ne fait rien, nous serions plus indépendants. C'est bien gentil à vous, mon cher, cher Sam. Mais il y a autre chose, j'ai un fils. Je m'imagine presque, lorsque parfois je me sens malheureuse, qui n'est pas à moi en réalité, mais que mon mari défunt m'en a confié la garde. Il semble tenir si peu de moi et tellement de son père. Il est si instruit, et moi si peu, que je ne me sens pas digne d'être sa mère. Il faudrait bien lui en parler. » Oui, assurément. Sam lut dans ses yeux sa pensée et sa crainte. « Tout de même, vous pourriez agir à votre guise, Sophie... Madame Twycott, » se reprit-il. « Ce n'est pas vous qui êtes l'enfant, c'est lui. »« Ah, vous ne savez pas. Sam, si je le puis, je vous épouserai un jour. Mais attendez un peu, laissez-moi réfléchir. » C'en fut assez pour lui, et lorsqu'ils se quittèrent, il était plein d'allégresse, mais pas elle. Dire la chose à Randolph lui semblait impossible. Elle pourrait attendre qu'il entre à Oxford, ou... Dès lors, ce qu'elle ferait n'aurait plus guère d'effet sur sa carrière. Mais en accepterait-il même l'idée? Et sinon, pourrait-elle le braver? Elle ne lui en avait pas encore soufflé mot lorsque s'ouvrit à Lord's le match annuel de cricket entre toutes les grandes écoles. Sam était déjà retourné à Aldbrickham. Madame Twycott se sentait plus forte que d'habitude. Elle vint au match avec Randolph, puis quittait son fauteuil et même marchait un peu. L'idée lumineuse lui vint d'aborder le sujet fortuitement, pendant qu'il se promenait parmi les spectateurs, en profitant du moment où le jeune homme, passionné par le jeu, était de si excellente humeur que les affaires domestiques pèseraient comme une plume dans la balance, à côté de la victoire remportée ce jour-là. Ils se promenaient donc sous le soleil pâle de juillet, ces deux êtres tellement éloignés l'un de l'autre et cependant si proches, et Sophie put contempler tous ces garçons semblables aux siens avec leurs grands cols blancs et leurs chapeaux minuscules, et alignés tout autour les grandes carrioles sous lesquelles on avait jeté pêle-mêle les débris des somptueux déjeuners. Os, croûtes de pâté, bouteilles de champagne, verres, assiettes, serviettes et argenteries de famille, tandis que sur les voitures se rengorgeaient les pères et les mères. Mais nulle part une pauvre mère comme elle. Si Randolph n'avait pas été de cela, n'avait pas concentré tout son intérêt sur eux, ne s'était pas soucié exclusivement de la classe à laquelle ils appartenaient, elle aurait pu être si heureuse. De bruyantes exclamations s'élevèrent de la foule des parents pour saluer le petit succès de quelques joueurs, et Randolph se précipita comme un fou pour voir ce qui s'était passé. Sophie essaya de retrouver la phrase qu'elle venait de préparer, mais elle ne put y parvenir. L'occasion était peut-être mal choisie. Le contraste serait fatal entre son histoire et l'étalage de ce beau monde que Randolph s'était habitué à considérer comme le sien. Elle attendit un moment plus opportun. Ce fut un soir, seule, dans leur petite maison des faubourgs, où la vie était plus noire que rose, qu'elle rompit le silence en atténuant l'annonce d'un second mariage par l'assurance que ce ne serait pas avant longtemps lorsqu'il aurait une vie indépendante. Le jeune homme trouva l'idée tout à fait raisonnable et demanda à sa mère si elle avait fait un choix. Elle hésita et il parut avoir un pressentiment. « Il espérait bien, dit-il, qu'elle allait épouser un homme comme il faut. »« Pas ce que tu appelles comme il faut, » répondit-elle timidement. « Il est à peu près comme j'étais avant de connaître ton père. » Et peu à peu, elle lui dit tout. Le jeune homme demeura un instant impassible, puis s'empourpra, et s'appuyant sur la table, il éclata en sanglots. Sa mère s'approcha de lui, couvrit de baisers son visage penché, et tout en larmes elle aussi, le caressa doucement comme s'il était encore le petit enfant d'autrefois. Quand il se fut un peu calmé, il s'enfuit dans sa chambre, où il s'enferma à double tour. Des pourparlers furent tentés. Derrière la porte, elle écoutait et attendait, en essayant de se faire entendre. Un long moment se passa avant qu'il daignât répondre, et quand il s'y décida, ce fut pour lui crier durement. « Tu me fais honte! Tu vas me perdre! Un misérable paysan, un rustre, un manant, cela va me déshonorer aux yeux de toute la bonne société d'Angleterre! »« Tais-toi! J'ai peut-être tort, je lutterai !» pleurait-elle dans sa douleur. Avant que Rodolphe ne la quittât cet été-là, elle reçut une lettre de Sam, lui faisant part de la brillante affaire qu'il avait conclue en achetant la boutique. Il devenait possesseur de la maison la plus importante de la ville pour les fruits et légumes, et pensait pouvoir se créer un foyer qui, plus tard, ne serait pas indigne d'elle. Pouvait-il faire un saut pour venir la voir ? Ils se rencontrèrent en secret, et elle lui dit d'attendre encore sa réponse définitive. L'automne s'écoula et quand Randolph vint en vacances pour Noël, elle aborda de nouveau le projet. Mais monsieur son fils fut inexorable. Pendant des mois, elle n'en parla plus. Revint ensuite à la charge pour y renoncer devant la résistance de son fils. Fit encore un essai et c'est ainsi que la douce créature discuta et implora pendant 4 ou 5 longues années. Puis, le fidèle Sam renouvela sa demande sur un ton plutôt tranchant. Une fois où son fils, alors étudiant, était revenu d'Oxford pour Pâques, elle remit tout en question. Dès qu'il serait dans les ordres, arguait-elle, il aurait une maison à lui, où avec son langage incorrect et son ignorance, elle ne serait pour lui qu'un embarras. Mieux valait qu'elle se montrât le moins possible. Il se montra plus mal en sa colère cette fois, mais ne voulut pas céder. De son côté, elle insista davantage, si bien qu'il en vint à se demander s'il pouvait se fier à sa mère en son absence. Mais, par son indignation et le mépris qu'il manifestait pour son choix, il maintint tout son ascendant. Finalement, il la mena devant un petit autel surmonté d'une croix qu'il avait érigée dans sa chambre pour ses dévotions privées et lui enjoignit de s'agenouiller en faisant le serment qu'elle n'épouserait jamais Sam Hobson sans son consentement. « Je le dois à la mémoire de mon père, » dit-il. La pauvre femme jura, pensant qu'il s'adoucirait dès qu'il serait lancé dans sa carrière ecclésiastique. Mais il n'en fut rien. Son éducation avait si bien étouffé en lui tout sentiment humain qu'il demeura inébranlable. Et pourtant, sa mère aurait pu couler des jours idylliques avec le marchand de fruits et légumes, sans que le monde s'en portât plus mal. Son infirmité s'accentua à mesure que le temps passait, et elle en vint à ne presque plus pouvoir quitter sa maison donnant sur le long faubourg où elle se mourait de langueur. « Pourquoi ne puis-je dire à Sam que je l'épouse ? Pourquoi pas ?» se murmurait-elle plaintivement quand elle était seule. 4 ans plus tard, un homme d'un certain âge se tenait, debout, devant la porte de la plus grande épicerie d'Albrickham. C'était le patron de la boutique. Mais ce jour-là, au lieu d'être en tenue de travail, il portait un strict complet noir et ses volets étaient à demi fermés. De la gare, on vit s'avancer un cortège funèbre. Le convoi passa devant sa porte et sortit de la ville en se dirigeant vers Guémide. L'homme, qui avait les yeux humides, tint son chapeau à la main jusqu'à ce que le cortège ait disparu. Tandis que, du corbillard, un jeune prêtre, face rasée, boutonnée jusqu'au col, jetait un regard ténébreux au boutiquier planté sur le seuil.